Un Autrichien de 18 ans a été tué par la police après avoir ouvert le feu près du consulat israélien en ce jour des commémorations de l'attentat des JO de Munich 1972. La police allemande a estimé qu'un attentat terroriste contre le consulat général d'Israël à Munich était en préparation après ces tirs dans la capitale bavaroise. C'est l'objet de notre entretien du 18h. Nous sommes avec Claude Moniquet. Claude Moniquet, bonjour.
Bonjour Blaise.
Vous êtes expert en contre-terrorisme, cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité et co-auteur du livre Comprendre le 7 octobre 2023. Alors pour commencer, on le disait donc, cet attentat terroriste estimé par la police allemande après qu'un jeune Autrichien de 18 ans ait ouvert le feu près du consulat israélien aujourd'hui à 18h. Quelles sont les dernières nouvelles, Claude Moniquet?
Alors, ce qu'on sait effectivement, c'est que cet individu a agi seul, en tout cas au moment du passage à l'acte. Il est arrivé en voiture, s'est parqué à proximité du consulat, a sorti son arme, qui était une vieille carabine K98, c'est-à-dire la carabine fabriquée à partir de 1935 pour la Wehrmacht. On en trouve à peu près 15 millions d'exemplaires, on en a fabriqué à l'époque 15 millions d'exemplaires, et il a ouvert le feu sur le consulat, qui était fermé, fort heureusement, puisque c'était la commémoration de l'attentat de la prise d'otage de 1972. Il a ensuite essayé de forcer une fenêtre, il n'y est pas arrivé, il s'est dirigé vers le centre de documentation et le musée sur les crimes du national-socialisme, qui est tout proche, à quelques dizaines de mètres, et il a été abattu par les policiers qui montaient la garde devant le centre de documentation. Ça, c'est pour les faits. Ce qu'on commence à savoir sur le profil maintenant, c'est qu'il s'agit effectivement d'un jeune homme de 18 ans vivant à Salzbourg, donc à 150 km à peu près de Munich, mais en Autriche, et qui était connu pour sa radicalisation islamiste. Voilà ce qu'on sait.
Donc, vous l'avez mentionné, c'était juste à côté de ce centre de documentation qui parlait de l'histoire de la ville sous l'époque nazie. On n'a donc pas affaire à un nostalgique du régime du Troisième Reich.
Non, son profil de reste ne correspond pas du tout à ça. Enfin, ce début de profil qu'on a nous montre plutôt un profil assez classique dans les attentats islamistes des dernières années. En Europe, un garçon très jeune, 18 ans, est radicalisé et probablement fréquentant les milieux salafistes. Maintenant, la question, c'est de savoir s'il s'est auto-saisi de cette mission d'attaquer le consulat d'Israël ou s'il y a été poussé ou incité par d'autres, voire par une organisation terroriste.
Ça touche l'Allemagne. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que ce genre d'acte terroriste visant les lieux juifs ou apparentés à l'État d'Israël sont de plus en plus nombreux, notamment depuis le 7 octobre.
Alors, certainement, il y a deux aspects dans votre remarque. Premièrement, effectivement, le 7 octobre a été un moment qui a été un turning point. Ça a totalement libéré à la fois la parole antisémite et l'incitation à la commission d'actes terroristes ou d'actes de violence, et on en a eu plusieurs qui ont été commis ou tentés en Europe. Deuxièmement, effectivement, l'Allemagne, qui avait longtemps été peut-être pas préservée, mais qui avait été quand même relativement épargnée par le terrorisme islamiste. Il y avait eu un seul grand attentat en Allemagne, c'était en décembre 2016 à Berlin, une attaque au camion Bélier qui avait fait 13 morts dans un marché de Noël, mais il n'y avait rien eu d'important depuis. Or, depuis ces derniers mois, on a eu une attaque au couteau à Duisburg, on a eu évidemment la tuerie au couteau de Solingen, perpétrée par un faux réfugié syrien, et on a maintenant cette tentative d'attentat qui n'a pas réussi. Et en plus, on a eu plusieurs démantèlements de réseaux en Allemagne même, mais également entre l'Allemagne, l'Autriche ou l'Allemagne et les Pays-Bas, qui étaient soit des réseaux liés à l'État islamique au Khorassan, soit dans certains cas au Hamas.
Sans faire de critique, Claude Moniquet, a-t-on affaire à un laxisme de la part des autorités allemandes ou c'est un contexte européen ?
Non, c'est un contexte européen. Les autorités allemandes travaillent bien. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler, puisque nous sommes effectivement au 50e anniversaire de la tragédie de Munich, qu'à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Les 11 athlètes tués par les terroristes palestiniens de Septembre Noir et le policier allemand qui avait été tué étaient évidemment des victimes du terrorisme, mais ils étaient aussi des victimes du laxisme, de l'impréparation et de l'amateurisme total de la police allemande. Mais après, ça a été un électrochoc en Allemagne, C'était la première fois qu'on tuait des juifs sur le territoire allemand depuis 1945, ce qui, dans la psyché allemande, évidemment, n'est pas rien. Et il y a eu toute une série de mesures qui ont été prises, tant pour la formation de services spécialisés comme le GSG9, l'équivalent du GIGN, si vous voulez, en Allemagne, et on a durci les services de renseignement. L'Allemagne se débrouille pas mal, comme la France, comme la Belgique, dans la lutte contre les réseaux organisés, qui sont pas faciles, mais qu'on peut repérer parce que quand il y a plusieurs personnes, ben, elles doivent communiquer, et c'est par les communications et les liens et les déplacements qu'on les repère. Quand on est en face d'un homme qui passe à l'acte seul, c'est beaucoup plus difficile. Et on a eu le cas en Belgique, on a eu le cas en France, on a eu le cas en Allemagne, et on l'aura encore parce que c'est une toute autre paire de manches de repérer un individu isolé.
Alors vous avez justement rappelé cet attentat de Munich de 1972 et le fait que c'était la première fois qu'on tuait des juifs en Allemagne depuis 1945. L'attentat d'aujourd'hui ravive-t-il de très mauvais souvenirs à la population allemande?
Certainement, et ça n'est pas la première fois. L'Allemagne a été l'un des premiers pays d'abord à soutenir Israël après le 7 octobre. L'Allemagne est aujourd'hui en Europe très clairement l'un des meilleurs alliés et des meilleurs soutiens d'Israël. Et l'Allemagne a condamné sans réserve, chaque fois que c'était possible, les manifestations antisémites, les actes antisémites, les manifestations anti-israéliennes. Aujourd'hui, si vous voulez devenir allemand, si vous êtes étranger, vous voulez devenir allemand, il faut remplir un questionnaire dans lequel que vous allez signer et dans lequel vous vous engagez à respecter l'État d'Israël et à reconnaître l'existence de l'État d'Israël. C'est le seul pays européen qui fait ça. Et bien entendu, c'est dû à son histoire et à sa référence à son histoire, à son passé, qui est totalement assumé aujourd'hui. Nancy Faeser, la ministre de l'Intérieur, a déclaré quelques minutes à peine après l'attentat de ce matin, la protection des communautés juives et des intérêts israéliens est l'une des priorités fondamentales du gouvernement allemand.
Alors, il y a un autre sujet que je souhaitais aborder avec vous, Claude Bonniquet. On l'a appris cet après-midi. Selon le quotidien allemand Der Spiegel, les services de renseignement européens ont récemment déjoué des complots terroristes iraniens reposant sur l'utilisation de groupes criminels organisés pour attaquer des institutions juives en France et en Allemagne. On n'est pas vraiment très surpris de la part des agents iraniens.
On n'est pas très surpris. D'ailleurs, il y avait différentes informations parcellaires qui circulaient sur cette utilisation de milieux criminels par les Iraniens pour organiser des attentats anti-israéliens ou antisémites. Ça circulait depuis plusieurs mois. Il y avait eu des arrestations. Et dans un contexte un peu différent, puisque ça concerne le Hamas, mais quand on parle du Hamas, on n'est pas très loin de l'Iran non plus. Pas plus tard que l'année dernière, à la fin de l'année, on a démantelé en Allemagne un réseau du Hamas qui était lié à un autre réseau au Danemark. Et au Danemark, c'était une bande de jeunes criminels spécialisés dans le trafic de drogue qui était instrumentalisée par le Hamas pour commettre des attentats contre les Juifs et les Israéliens. Donc c'est une pratique effectivement qui n'est pas nouvelle pour les Iraniens. Les Iraniens, il faut quand même s'en rappeler, depuis la révolution islamique de 1979, les Iraniens ont commis des dizaines d'attentats, non seulement contre des intérêts israéliens ou contre des juifs, mais contre l'Europe en général, ou contre des intérêts européens ou des troupes européennes à l'étranger, et c'était toujours par des proxys, soit le Hezbollah en Iran, soit d'autres organisations plus ou moins fantomatiques, et parfois par des milieux criminels. C'est une pratique courante pour détourner pour pouvoir actionner ce qu'on appelle le plausible denial, dire non, c'est pas nous, on n'a rien à voir là-dedans, ce sont des criminels. Ou des Libanais ou n'importe quoi.
On a l'impression quand même qu'on entend souvent ce genre d'organisations qui sont déjouées, qui sont démantelées. Elles sont dangereuses?
Oui, elles sont dangereuses. Les organisations, enfin, toute organisation terroriste est dangereuse. Tout individu animé par une passion terroriste et susceptible de passer à l'acte, comme ce jeune homme ce matin, est dangereux. Si le consulat n'avait pas été fermé, il y aurait eu des blessés ou des morts. Même s'il utilisait une arme un peu primitive. Mais quand vous avez affaire à des gens qui sont d'origine d'extraction criminelle, c'est encore tout à fait différent. Rappelez-vous que les attentats de 2015 à Paris et à Bruxelles ont été organisés par des gens qui, à la base, étaient des criminels multicondamnés, multirécidivistes, c'est-à-dire des gens qui connaissent les méthodes de la police, qui ont accès au marché des armes, qui ont accès et qui savent comment mener une activité complotiste sans être découvert. Donc ça ça décuple la dangerosité des éléments terroristes.
Claude Moniquet, je rappelle que vous êtes spécialiste en contre-terrorisme, cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité et co-auteur du livre « Comprendre le 7 octobre 2023 de la création d'Israël à l'offensive du Hamas ». Merci d'avoir été avec nous dans ce journal et à bientôt.
Merci Blaise, à bientôt.